Bienvenue sur Just a Click, le podcast français du product management. Ici, on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici, vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul, on va vite, mais sur Just a Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Salut Maud.
Salut Thierry.
Merci de prendre du temps aujourd'hui pour parler donc de design system dans un contexte de rebranding. Donc ça va être la thématique de notre échange. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter et puis de présenter ce que tu fais chez Brivo.
Ok. Alors je suis Maud, donc je suis lead design system chez Brivo. Je suis product designer essentiellement. Je lead l'équipe design system de Brivo depuis juillet 2022, donc quasiment un an et demi là. Brivo, c'est un produit qui permet à des business, à des entreprises plutôt petites entreprises, moyennes entreprises, de scaler un peu leur business. Et de développer leur activité autour de la relation client. Et donc, en gros, le produit Brivo va proposer plein d'outils pour permettre de construire une relation client et d'améliorer sa relation client. Donc, initialement, Brivo, c'est Sending Blue, qui a donc subi un rebranding pour devenir Brivo. Et donc, initialement, on est sur des campagnes email, SMS, WhatsApp, des notifications, de l'automatisation. Il y a des outils aussi autour du CRM, des pipelines de vente. La gestion de rendez-vous, de la téléphonie, des liens de paiement. Il y a vraiment un panel d'outils pour permettre aux utilisateurs d'augmenter leur business.
Très, très clair, du coup, pour bien que les gens comprennent aussi la taille de votre équipe, oui. de Brivo, donc anciennement Sending Blue, ouais. Au global, et du coup, en quoi après ça pose de gros enjeux quand tu fais un rebranding comme cela, ouais. C'est quoi à peu près l'effectif à la louche qu'il y a chez Brivo, et côté design et product and tech.
Ouais. Alors Brivo, c'est une entreprise de... Je crois qu'on a passé les 800 personnes, donc c'est 800 personnes à travers le monde. Les équipes tech, on a à peu près 50 frontes. Je ne sais pas combien il y a de bacs, et je ne suis pas sûre de vouloir le savoir, mais en tout cas, voilà. Et l'équipe produit, c'est à peu près 50 personnes. Et au sein de l'équipe produit, moi je suis spécifiquement dans l'équipe design, donc l'UX team chez Brivo, qui est à peu près composé de 25 personnes, avec les product design évidemment, la content team, la design system team et la l'UX research.
Ok, très clair. Donc là, ça pose un peu le décor. On voit que c'est pas des petites équipes, ouais. Et donc ça fait une taille importante derrière pour gérer tout ça. D'où l'intérêt aussi de mettre en place un design system pour permettre, ouais. D'homogénéiser derrière tout ce qui va être expérience utilisateur, design, la partie purement UI, et puis après aussi communication auprès des clients.
Tout à fait.
Donc quand t'es arrivé, c'était encore Sending Blue, ça avait déjà le rebranding avait déjà commencé.
Quand je suis arrivée, c'était encore Sending Blue. Le rebranding était clairement programmé. Ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Donc c'était prévu et j'ai été embauchée aussi pour ça, pour préparer ce rebranding et pour aussi accompagner. Souvent dans un rebranding, on va refaire le site public, le flagship website, et donc en fait le produit, très souvent, c'est pas si fréquent qu'on rebrande le produit en même temps. Là, il y a un renaming en même temps, puisqu'on passe de Sending Blue à Brivo. Et donc, il y avait un vrai besoin de complètement switch d'identité à un jour précis. Et donc, c'est pour ça que j'ai été en partie embauchée aussi pour préparer tout ça.
Donc, première question assez large, mais toi, quand t'arrives, du coup, qu'on te pose ça comme mission, c'est quoi un peu ta démarche pour te dire comment je vais attraper ce problème, par quel bout je vais le prendre, quelles questions tu t'es posées, ouais. et quelles étapes un peu tu t'es définie.
La première étape, de toute façon, ça a été de voir l'existant, d'auditer, d'analyser l'existant, puisque ma deuxième mission, en fait, c'était quand même de m'occuper du design system et de gérer le design system de Sending Blue à l'époque. Donc, il y a une grosse phase d'audit. Et en parallèle de ça, on a commencé à se mettre d'accord aussi avec les équipes marketing et donc les équipes de brand. C'était hyper essentiel parce qu'en fait, un produit répond pas aux mêmes besoins pour les utilisateurs qu'un site public. On a des contraintes bien plus grosses, notamment dues au legacy, à la sémantique aussi, qui n'a pas du tout la même signification. Le vert dans un produit, ça a des significations très particulières. Le rouge, ça a des significations très particulières. L'orange. Donc en fait, quand on construit une identité, il faut quand même faire attention à tout ça et à l'existant.
Ouais, donc pour bien comprendre, quand tu dis on va dire l'inertie du duo legacy, ou en tout cas un peu la complexité du duo legacy, c'est qu'en fait t'as des utilisateurs qui ont une habitude sur l'usage du produit tel qu'il est et pas sur la partie visible marketing, on va dire inbound, mais vraiment sur une fois que t'as converti, que t'as vraiment tes utilisateurs qui utilisent le produit au quotidien. Et eux, on l'a tous vécu ça, hein, des fois sur certains produits, du changement du un des plus connus pour le public français, la majorité du public sur le podcast, c'est l'application SNCF Connect, qui a fait beaucoup parler quand on est passé de l'ancienne à la nouvelle, parce que l'usage a complètement changé. Si on n'accompagne pas aussi l'utilisateur à ce niveau-là...
C'est exactement ça. Et donc, ce qui n'a pas très bien fonctionné pour Oui SNCF, par exemple, c'est le changement complet et le manque d'accompagnement. Au-delà des changements visuels et du changement de... je ne sais pas s'il y avait un changement de nom. Je me demande s'il n'y avait quand même pas un changement de nom avec Oui SNCF, etc. Ça, je veux dire, c'est pas très grave pour des utilisateurs qui sont déjà dans le produit. Ce qui va être grave, c'est de changer complètement les choses et de les déboussoler, en fait. C'est ça qu'on cherche à éviter.
Donc, grosse compréhension, on travaille pour savoir comment ça fonctionne sur l'existant.
Ouais.
En même temps, du coup, j'imagine que tu réfléchissais pour la mise en place en parallèle de ce design system.
Ouais.
Après, une fois que t'as pu créer donc un peu une compréhension de ce qui existait, quelles ont été les prochaines étapes pour aussi, parce que donc on parle de design system, donc peut-être tu peux aussi toi donner pas spécialement une définition, mais l'intérêt du design system pour Brevo et aussi que tout le monde puisse mesurer les challenges qu'il peut y avoir aussi sur la partie adoption de ce type de cadre de travail, de framework pour les équipes qui ont une habitude de travail actuelle et qu'il va falloir aussi faire changer en interne.
Alors, quand je suis arrivée et qu'on a audité, en fait, la partie design, le design system était plutôt bien adopté. Il y avait des problèmes pratiques, des cas pratiques sur des composants très particuliers, sur des patterns très particuliers. Donc, ça, c'était la partie facile. La partie un peu plus compliquée, c'est l'adoption au niveau des techs. Et en fait, un design system, il a de sens que s'il est adopté à la fois par les designers et à la fois par les développeurs. Le but d'un design system étant quand même de faire gagner du temps à tout le monde, tout en permettant d'avoir une expérience cohérente pour nos utilisateurs. Et le but aussi ultime, c'est que les gens se concentrent, c'est-à-dire mes utilisateurs premiers, les développeurs et les designers, se concentrent à designer et pas à se poser des questions et à réinventer la roue à chaque fois qu'il y a un nouveau bouton à créer ou ce genre de choses. Donc c'est aussi évacuer la partie un peu basique, même si c'est loin d'être basique de créer un design system. On veut évacuer tous ces sujets pour nos designers et nos développeurs aussi. Quand on sait qu'il va y avoir un switch important, et qu'on sait aussi que le design system n'est pas adopté au niveau tech, la première chose à faire, en parallèle de mettre en place la brand et je veux dire rebrander à proprement parler et de passer de Sanimlu, qui était une identité bleue, à Brevo, qui est une identité verte, globalement, ça, c'est la partie facile du rebranding. La partie compliquée, ça va être l'adoption et comment convaincre à la fois les designers, à la fois les développeurs, à la fois les product managers aussi, de prévoir du temps, de planifier ces tâches qui sont de migrer d'une ancienne librairie de composants React à la librairie du design system.
Et donc là-dessus, sur ce travail un peu d'évangélisation pour l'adoption, c'était quoi un peu toi tes techniques ou en tout cas ou le retour que t'en as aujourd'hui avec le recul sur ce qui a bien marché, ce que t'aurais peut-être fait différemment, les choses, les tips pour des personnes qui seraient dans des situations similaires.
Je pense qu'il y a une... Alors ça, c'est globalement, c'est pour toutes les missions de personnes qui font du design system ou de l'ops, je dirais. C'est globalement beaucoup de communication d'expliquer ce qui peut paraître complètement évident pour soi. Ça ne l'est pas du tout pour les autres. Et donc, la première partie, ça a été l'évangélisation de c'est quoi un token, c'est quoi un composant, c'est quoi un pattern, comment on va rebrander. Ça, c'était une grosse inquiétude pour tout le monde. Qui doit rebrander? Comment on a prévu de rebrander? Est-ce qu'on fait tout d'un coup et du coup, c'est une très grosse charge de travail? Ou comment est-ce qu'on prévoit les choses et comment est-ce qu'on va planifier et créer finalement une sorte de roadmap parallèle pour, malgré tout, produire à la fois des features, sortir des features, délivrer et en même temps prévoir ce rebranding qui arrive à une date très précise, voilà.
Oui, parce que là-dessus, faut aussi, ce qui peut être compliqué dans le cas de l'adoption, comme tu viens de le dire, c'est que tu as des équipes qui sont en place, qui ont déjà des choses à délivrer sur l'existant pour les utilisateurs actuels. Et en même temps, on leur rajoute, entre guillemets, une charge de travail qui leur fera gagner du temps dans le futur. Mais très court terme, ils sont là, on est déjà sous l'eau, comment on fait pour réussir? C'est pas un sujet qui est hyper évident là-dessus. Ouais. Donc,
ouais. Et en fait, c'est là où le product management a de l'intérêt, c'est de planifier en fait, ces tâches-là. Et c'est valable pas uniquement pour un rebranding, en fait. C'est valable aussi quand on migre et qu'il y a un nouveau composant. Et je pense aux composants très compliqués comme les data tables ou ce genre de choses. Et ben ça arrive qu'en fait, des fois, il faille prendre le temps de passer et de migrer sur un composant design system qui a été pensé, qui est probablement plus utilisable pour les utilisateurs et plus scalable aussi.
Très, très clair. Toujours pour rester un petit peu sur la partie donc tech du design system, quels sont les aspects, toi, où tu as vu le plus de bénéfices pour les techs ou peut-être des retours a posteriori de choses « Ah ouais, franchement, là, c'est top, maintenant, on gagne un temps fou », peut-être auquel tu t'y attendais pas ou en tout cas des bonnes surprises sur certains composants en particulier ou certaines choses
Alors, globalement, en fait, la très bonne surprise, c'est que maintenant, les techs, avant de créer un nouveau composant, ils vont venir voir le design system en disant « Vous voulez pas nous créer le composant ?» Ce qui est du coup l'écueil inverse, ce qui nous amènera à la contribution, je pense. Mais ça, c'est une marque de confiance énorme pour nous. Il y a eu ça, et il y a eu aussi, pendant la migration qui a duré quand même... 4 mois, enfin, genre, c'est assez long, quoi. Progressivement, on a migré des pages, on a mis en place un tamer pour pouvoir quand même rester sur Sendinblue et en même temps designer pour Brevo. Donc, côté dev et côté design. Et donc, en fait, très progressivement, avant tout ça, on a mis en place un tracker pour savoir combien de composants du design system étaient dans les codebases, combien de composants de l'ancienne librairie étaient encore dans les codebases. Et là, on a vu le ratio s'inverser. De façon assez exponentielle, et sur tous les composants, en fait. Il n'y avait pas spécifiquement de composants un peu à la traîne. Les composants à la traîne, c'est toujours les plus gros composants qui constituent quasiment une page, les data tables, les listes, les Kanban, ce genre de gros composants qui parfois nécessitent aussi des backs, une refonte aussi du back et de comment ça fonctionne derrière.
Et c'est hyper, hyper intéressant l'aspect tracker, là. C'est-à-dire qu'en fait, vu que vous aviez déjà un existant, c'était de pouvoir aussi, toujours l'importance de pouvoir mesurer quand tu fais des changements comme ça, un peu là où t'en es et si c'est un succès ou pas. Et du coup, mettre en place, c'est sur l'existant pour ensuite voir comment ça évolue de l'ancien vers le nouveau. Je trouve que c'est un point assez, vous aviez la chance aussi là d'avoir déjà un design system plus ou moins existant pouvoir faire ça. Ouais.
Oui, clairement, le design system, il préexistait, ça c'est sûr. Il y avait d'anciennes librairies de composants qui n'étaient pas un design system. Un design system, c'est pas juste une librairie de composants. Petit rappel.
ça me fait penser si tu peux un peu détailler du coup la complexité de ce que c'est qu'un design system.
Alors un design system, c'est on travaille quand même sur de l'atomic design, donc on travaille avec des tokens qui sont les plus petites parties du design system. Ça va être une couleur, un dégradé, un border radius, un spacing. Voilà, ça, c'est les tokens. Ensuite, à partir de ces tokens, on crée des composants. Simple, on va dire ça comme ça. Ça va utiliser les tokens pour créer un bouton, par exemple. À partir de là, on va évidemment ne pas s'arrêter à des petits composants simples et efficaces malgré tout. On va créer des composants plus complexes où on va nester, donc mettre à l'intérieur d'autres composants. Et puis à la fin, on a aussi les patterns, c'est-à-dire comment fonctionne un composant, à quel moment on doit utiliser ce composant-là plutôt qu'un autre, pour tout ça dans le but évidemment de créer une expérience cohérente pour nos utilisateurs. Ça permet aussi de voir le produit comme quelque chose d'holistique, d'avoir une vision un peu plus big picture de la chose, ce qui est un peu un écueil aussi pour les product designers qui vont souvent être sur une partie du produit. C'est la même chose pour les PM, c'est la même chose pour les techs. Chacun est dans sa partie du produit et donc très vite, en fait, on arrive à des petits comportements très spécifiques à chaque produit. Le design system, il permet de prendre un peu de recul et de dire « Ah bah attends, bidule, il le fait comme ça, et truc, il le fait comme ça, peut-être qu'en fait, vous pouvez faire la même chose. » Voilà, ça fait partie. C'est les coulisses du design system, c'est pas que la librairie de composants, c'est surtout en fait les discussions qui vont permettre de dire « Attends, il y a peut-être un moyen de faire en sorte que l'utilisateur, à la fin, il ait la même expérience pour potentiellement la même chose, quoi. »
Yes, c'est ça qui peut être, enfin, qui est complexe quand t'as beaucoup de vues différentes, de types d'interactions différentes, c'est-à-dire de réussir à avoir une homogénéité de comment ton application se comporte sur toutes les fonctionnalités qui existent. Parce que comme tu le dis, ces fonctionnalités-là vont être dédiées à certaines équipes, certaines squads qui vont être concentrées uniquement sur un aspect du produit. Et il faut prendre du recul pour avoir la vision globale et se dire, est-ce que là, bah, le type de comportement de ma modal view, peu importe, est le même sur l'ensemble du périmètre du produit. Et donc, un gros produit tel que Brivo, on peut comprendre rapidement à quel point c'est complexe et en même temps hyper important du coup d'avoir ces comportements homogénéisés.
Ouais, tout à fait.
Donc hyper clair, ça me permet de faire la transition vers la partie content aussi dont tu as touché du doigt au début, c'est-à-dire que tu disais les landing pages, les pages purement marketing qui vont permettre de récupérer les clients de manière inbound, qui vont ensuite potentiellement se convertir et venir utiliser le produit. Eux, ils ont peut-être plus de flexibilité dans le contexte du rebranding, on va dire, de changer les verbatims, la façon dont ils s'expriment sur la nouvelle façon dont la marque veut s'exprimer. En revanche, sur les utilisateurs existants, si tu commences à complètement changer la façon dont tu t'exprimes, ça peut faire créer beaucoup de friction. Et en même temps, si tu le fais pas, les nouveaux qui vont arriver dans un type de verbatim, ils vont se retrouver derrière à utiliser une application qui ne parle pas du tout de la même manière que sur la page purement marketing. Donc, comment un peu t'as géré ça? Comment vous avez géré ça? Parce que je sais que t'avais une équipe aussi content, si je dis pas de bêtises.
Ouais, il y a l'équipe content qui travaille avec nous, et il y a des équipes content côté marketing, des PMM, voilà, qui vont évidemment travaillent ensemble, hein. Un rebranding, c'est aussi changer de ton, c'est aussi changer de... Alors, on n'a pas vraiment changé de valeur, mais on change quand même... Enfin, genre, on ne fait pas un rebranding pour le plaisir. Il y a derrière une stratégie marketing, il y a évidemment un ton différent, un positionnement différent potentiellement. Et donc, il faut retravailler ça. Ça va forcément atterrir d'une certaine façon dans le produit. Moi, j'avoue que je me suis pas vraiment occupée de la partie website. Je sais que, par contre, c'est des questions qui ont été posées au niveau du contenu. Et côté UX, les équipes content, ce qui est hyper intéressant, c'est le moment où on va rajouter cette sous-couche content dans le design system et où, au final, on vient aussi systématiser la façon dont on s'adresse à nos utilisateurs. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ça, c'est très, très long. Pour plein de raisons, c'est qu'en fait, tant qu'un pattern n'est pas méga bien défini, que le ton n'est pas méga défini non plus, ça prend beaucoup de temps de définir le ton, d'être juste, de bien savoir ce qu'on veut dire à nos utilisateurs.
Ça, comment déjà vous travaillez sur cette définition du ton? Est-ce que, alors après, peut-être c'est plus les équipes content, mais si tu peux en parler un petit peu de ce que tu vois, de comment c'est cet aspect-là?
Il y a, en fait, ce qu'il faut comprendre sur le content en termes du UX, c'est qu'il y a forcément une façon de s'adresser aux utilisateurs en termes de brand. Et donc là, ça, c'est vraiment vu avec le marketing. Enfin voilà, d'être, de rester humble, de rester beginner first, donc de s'adresser quand même à des experts, mais aussi à des gens qui débutent le marketing et leur, le développement de leur relation client. Et côté UX, t'as aussi forcément le besoin d'exprimer les choses très clairement, de décrire les choses très clairement. T'as des patterns, des web patterns en fait aussi, hein, qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'on va pas réinventer le bouton cancel, même si tout ceci est discutable et ça dépend aussi de ce qu'on se dit, mais voilà, une erreur, c'est quoi une erreur? C'est spécifique en fait, il faut définir quelle est l'erreur, expliquer ce que c'est, et puis donner une porte de sortie par exemple. Et donner la porte de sortie, ça peut faire partie du design system.
Ok, ouais, très, très clair. Donc ça, tu t'expliques que vous êtes encore en cours de travail sur cet aspect-là. C'est quoi peut-être les plus gros challenges auxquels vous faites face aujourd'hui ou peut-être, et les premiers, les pistes de réflexion là-dessus
Avec le content, les premières pistes de réflexion, c'est les feedbacks et notamment la gestion des erreurs. En fait, je sais pas vous, mais enfin vous, tout le monde, je sais pas toi en tout cas, mais les erreurs coulent dans un produit quand ça se passe pas bien, mais qu'en fait ça va, c'est cool et le message d'erreur est utile, permet de pas rester bloqué ou est rigolo ou voilà, tout ça, tous ces messages d'erreur en fait, ça te fait passer finalement un pas si mauvais moment, même si ça peut être très irritant et tout. Si ton erreur est bien réussie dans un produit, franchement, c'est well done, c'est vraiment bien joué.
Ouais, là-dessus, je partage totalement, clairement.
Et en fait, du coup, les erreurs, souvent, elles sont un peu laissées de côté parce que les designers, les PM, les techs aussi, ils ont tendance à designer le happy pass parce qu'on a tous envie que ça se passe bien.
Et tu te retrouves avec un something went wrong.
Voilà, ou a problem has occurred. Ouais, c'est ça. Voilà. Qui n'est parfois pas traduit. Enfin, genre, ça, c'est des choses... Donc ça, c'est le premier axe, c'est vraiment les feedbacks. Autour de ça, le content va aussi, au-delà juste du contenu, il peut aussi travailler ensemble pour dire le message, ce message-là, il doit être persistant, par exemple. Il ne peut pas s'effacer au bout de 10 secondes. Donc, il y a vraiment aussi de l'UX. C'est pour ça qu'on est des UX writers et des content designers. Ça va au-delà de juste le contenu. C'est aussi prescrire le fait qu'une alerte erreur, elle est peut-être tout le temps persistante. Et elle ne va pas disparaître au bout de 10 secondes parce que du coup, l'utilisateur il peut potentiellement être bloqué.
Hyper, hyper clair. Et c'est vrai que ça rappelle aussi l'intérêt, la complexité du design system et son intérêt vraiment de prendre du recul sur la globalité du produit, c'est-à-dire d'avoir un comportement homogène aussi à ce niveau-là. Parce que si tu as une erreur à un moment qui pop et qui reste pendant 5 secondes versus à d'autres endroits, elle reste en permanence là, on pourrait se dire, ça n'a pas d'importance. En réalité, ça en a énormément sur le long terme, sur l'usage du produit et derrière aussi sur la montée en compétence en fait, des utilisateurs parce que ça permet un onboarding beaucoup plus fluide quand ils savent que quand un comportement est le même de partout, une fois que tu l'as compris, tu as compris pour l'ensemble du produit. Donc, il y a aussi... aussi cet aspect apprentissage du coup. Du coup, ça me fait penser à une question, on n'avait pas spécialement parlé en off, mais sur ce sujet de l'apprentissage du produit, est-ce que vous avez un peu un mécanisme d'onboarding ou en tout cas de... Oui, c'est ça, d'onboarding et derrière de formation, comment vous gérez la formation des utilisateurs? Est-ce que c'est du...
C'est un de nos sujets, c'est marrant, c'est un de nos sujets en ce moment. Donc il y a forcément des onboardings. Brevo, c'est un produit relativement complexe avec vraiment beaucoup de petits outils les uns à côté des autres qui permettent du coup d'avoir tout ce qu'il faut pour faire une relation client, pour gérer sa relation client au mieux. Il y a des onboardings, ce sont des sujets qui sont traités par tribe. On a quand même une tribe qui s'occupe vraiment du cycle de vie de l'utilisateur. Et donc, il va faire attention à ça et notamment à unifier ses parcours d'onboarding. Et on a des patterns justement autour de ça qui sont en train d'être créés. De la même façon, c'est toujours très long. sur le Creature First, comment on fait pour créer son premier deal dans le pipeline de vente, comment on fait pour créer sa première campagne. Ou créer son premier meeting. On a ça, on a aussi tous les anti-states qui doivent être potentiellement plus intéressants que juste un empty state. Et on a les tips, le pattern d'astuces, qui va finalement recommander une façon de faire les choses correctement, ou carrément donner vraiment un lien vers le Help Center qui permet du coup d'avoir plus d'infos ou sur des choses assez complexes, l'import de contact, le fait d'avoir voilà, enfin les segmentations, etc. Tout ce qui est un peu plus fin. Donc ça, c'est inscrit et c'est dans le design system et c'est vraiment, ça fait partie des patterns que doivent appliquer aussi les designers.
Ouais, donc ça enrichit, ça c'est un autre élément de contexte qui apparaît et qui est géré ouais. au niveau du design system. Donc si ça évolue, c'est aussi au niveau du design system que ça sera mis à jour.
Ouais, exactement. Et le design system, il évolue aussi uniquement avec les product designers. C'est-à-dire qu'on va, le design system va jamais créer un composant qui n'a pas été demandé et utilisé déjà par les product designers.
Et du coup, bah, ça me fait une parfaite transition sur la partie contribution du design system. Comment vous le gérez aujourd'hui? Comment ça s'est... Donc, tu parlais d'un premier succès de mise en place. Quand on te demande, est-ce que tu peux me créer ce composant? Ça veut dire que du coup, effectivement, t'as réussi à gagner la confiance des équipes qui implémentent. Parce que souvent, l'un des problèmes, c'est tu fais un premier design system qui est utilisé en one shot une fois. Et après, en fait, les équipes se disent bon, c'est bon, je vais modifier de mon côté. Et en fait, bah, tu perds évidemment l'intérêt de centraliser ça. Et donc, après, tu te retrouves d'ici quelques années avec encore un truc éclaté où t'as des comportements qui sont pas homogènes. Donc, tu t'expliquais que vous avez déjà cette chance d'avoir des gens qui vous demandent de créer des composants. Donc, l'adoption plutôt cool.
Ouais.
Mais comment vous gérez? Parce que parfois, du coup, si t'en as beaucoup qui te demandent en même temps, les équipes du système.
Et oui, on est une équipe, donc juste pour info, on est une équipe de design system, on est 2 designers et on est 5 devs, dédiés uniquement. Donc en fait, on ne peut pas répondre aux besoins des 50 devs et des 25 personnes qui sont dans l'UX team. Ce qui se passe, c'est qu'on a mis en effet en place des systèmes de contribution, que ce soit côté dev ou côté design. Côté design, il y a des règles un peu plus... strict que les devs, parce que les designers vont initier finalement les changements dans le design system d'une certaine façon. C'est pas toujours le cas. Parfois, ça vient des devs aussi. Pour d'autres questions beaucoup plus techniques, beaucoup plus sur l'accessibilité ou ce genre de choses. Pour les designers, ce qui se passe, c'est qu'on a une règle, on n'intègre pas un nouveau composant s'il n'a pas été utilisé au moins 3 fois dans l'app. Et 3 fois, c'est la moyenne basse. C'est le minimum syndical. Donc ça, tous les designers le savent. Ça veut pas dire... Très vite, la première réaction, c'est « Ah ouais, mais du coup, ça va tuer la créativité, etc. » Non, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est juste d'intégrer les choses scalables, reproduisibles, et dont tout le monde potentiellement a besoin, de les intégrer dans le design system, de les maintenir, de les rendre accessibles, de les faire évoluer dans le temps. S'il y a des one-shots, c'est tout à fait possible, on demande juste au designer en fait, d'utiliser les tokens, les petits composants simples du design system. Pour ça, ils ont un fichier expérimental, la Lab Component Library, où ils sont censés gérer, je dis censés, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ils gèrent leurs propres composants. Ils doivent faire un peu du lobbying et donc présenter leurs composants aux autres designers, pour éventuellement faire en sorte qu'ils utilisent leurs propres composants. Voilà. Un exemple de composant, ça a été la variante small du bouton. Dans un premier temps, on l'a intégré au design system, évidemment, mais dans un premier temps, on leur a dit, nous, on veut bien le faire, mais si c'est utilisé qu'une fois dans l'app pour ton besoin très spécifique, je préfère que tu le fasses toi avec tes devs. Et donc, très vite, on a réussi quand même à avoir ces moments de partage où on discute le composant, est-ce que vraiment c'est un vrai composant design system ou pas, ou est-ce que finalement peut-être que tu peux tester en one shot déjà si ça marche, et donc de vérifier et d'itérer, et ensuite on l'intégrera au design system. Ça, c'est une première partie. Après, pour des contributions, ça c'est vraiment la création d'un composant.
Yes, juste garde ce que tu as pour après, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à l'utilisation des tokens. Donc même dans la création des composants en one shot, ce que tu dis, c'est que effectivement les designers utilisent les tokens qui sont dans le design system, et les tokens les plus granulaires, les plus petits, donc la couleur, le border radius, etc. Donc qui permettent quand même de conserver une homogénéité évidemment au niveau purement UI. Et après, ils sont censés aussi connaître les guidelines de base sur les interactions et du coup permettre aussi de garder cette homogénéité au niveau aussi interaction. Donc c'est pas parce que le composant n'est pas complètement intégré dans le design system pour être utilisé à d'autres endroits que il va faire péter l'expérience utilisateur. Au contraire.
Bah en fait, c'est exactement. C'est pas parce qu'un composant ou une UX n'est pas dans le design system, ça veut dire qu'il n'est pas design system compliant. En fait, potentiellement, ça pourrait être. Enfin, je veux dire, on a plein de parties du produit qui sont pas dans le design system et c'est OK. Juste, on fait en sorte que ça ressemble... Enfin, voilà, on réinvente pas la roue, en fait, des tokens.
Ouais,
voilà.
Et donc ça permet vraiment... C'est un très bon point dont tu parlais juste avant aussi, la scalabilité, c'est-à-dire que l'intérêt aussi du design system, donc il y a la première couche qui est loin d'être simple, mais qui est l'homogénéité globale sur les comportements de ton application, donc qui permettent d'aligner tout le monde sur, voilà, c'est comme ça que ça se passe au niveau interaction, etc. Et donc ça doit être, que ce soit des composants dans le design system ou pas, les designers doivent s'inspirer de ça pour designer les choses. Et ensuite... on intègre des composants dans le design system en tant que tel, si jamais on sait qu'on va les utiliser 10 fois.
Voilà, enfin,
le chiffre, c'est 3, mais après...
3, c'est vraiment tout petit. Il y a des composants qui sont utilisés plus que 3 fois qui sont toujours pas intégrés dans le design system parce que le design system, typiquement, parce qu'en fait, il sera jamais accessible. Eh ben, il sera pas dans le design system dans ce cas. Parce que ça fait partie de nos bases en fait de créer des composants accessibles. Ça peut être aussi des composants qui sont cool à première vue et puis très vite ils sont réutilisés mais ils sont pas bien utilisés. Ça, des misusages, il y en a partout dans les design systems et donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. En fait, le design system souvent on est prudent. C'est ce que j'ai. Les impacts, ils sont trop importants pour qu'on n'ait pas un peu de prudence. Et donc, souvent, le design system est un peu plus lent. On prend des décisions. C'est pas grave si ça nous prend 2 mois pour dire, bon, bah, allez, finalement, on le fait, le composant. En fait, c'est pas grave. Le but, c'est de pas être un goulot d'étranglement et donc de laisser quand même libre cours avec les bases du design system, les tokens, les petits composants de base qui ne changeront pas. De quand même laisser libre cours et la possibilité de créer du custom, en fait.
Yes, du coup, donc je t'ai coupé quand tu allais partir sur la deuxième partie des contributions.
Oui, la deuxième partie des contributions, ça va être les plus ou moins larges contributions à un composant qui existe. Donc, rajouter une fonctionnalité, rajouter un style, rajouter ce genre de choses. Et ben dans ce cas, en fait, on va demander au designer de passer par le lab, de nous montrer vraiment ce qu'il veut, d'expliquer aussi le besoin. Donc, on passe aussi par les user stories, ce genre de choses, pour bien comprendre quel est le problème, en fait. on est le product designer des product designers au design system. Donc, en fait, on cherche à comprendre quel est vraiment le problème. Et à ce moment-là, les designers, c'est souvent plutôt bien fait et nous, on va réintégrer directement le design côté design system dans la lib, Figma. Et côté dev, on peut leur demander aussi de contribuer. Très récemment, c'était rajouter une icône devant une collapsible section. Donc, c'est vraiment le principe de drop-down sur un titre. Et ben, il n'y avait pas d'icône dans ce composant. Parce qu'on essaye d'enlever un peu les icônes dans le produit en ce moment. Donc, on ne l'avait pas mis de façon complètement délibérée. Et finalement, ça a été un besoin qu'on a permis de rajouter. C'est une contribution d'un dev.
Hyper, hyper intéressant là-dessus. J'aimerais revenir sur un point que tu disais juste avant, sur la partie où on n'intègre pas de composants s'ils ne sont pas accessibles.
Oui.
Tu parles vraiment de l'accessibilité au sens, du coup, personnes qui peuvent avoir besoin, par exemple, de scanners, d'écran ou autre. C'est dans ce sens-là que tu parles d'accessibilité.
Alors, en fait, l'accessibilité, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. L'accessibilité, c'est assez large. Ça touche tout type de personnes, en fait. Ça peut te toucher toi. Quand t'es dans le métro ou quand t'es en plein soleil, voilà, et que tu es en train de regarder ton écran de téléphone et qu'en fait t'as pas assez de contraste sur une interface, ben tu lis rien. Donc, tu as beau rajouter le maximum de lumière possible.
Comme du noir sur fond rouge, c'est pas mal, ça.
Par exemple, voilà, ce genre de choses. En tout cas, voilà, il y a le premier niveau, ça va être le contraste, qui est quelque chose d'assez atteignable très vite. Après, on a aussi, pour des produits un peu plus tech, on peut penser à la navigation clavier. Les devs, je pense qu'ils fonctionnent que à la navigation clavier.
Et clavier mécanique.
Et clavier mécanique, s'il vous plaît, avec des petites touches personnalisées. Non, mais voilà. Donc, en gros, voilà, ça peut toucher les devs aussi, l'accessibilité. Donc, avoir une navigation au clavier. Et après, il y a la couche aussi screen reader, qui est méga intéressante, du coup, avec le contenu. Comment on gère les contenus cachés. Je sais pas, un truc tout bête, c'est... un bouton view dans une interface, potentiellement dans une même interface, il y a view settings, view logs, view machin, et c'est sur la même interface. Comment quelqu'un qui ne voit pas l'interface peut interpréter un bouton qui n'a pas d'aria label? C'est OK pour le bouton de dire view pour un utilisateur lambda. Pour quelqu'un qui ne voit pas l'interface, c'est directement un peu plus compliqué. Et donc, on va rajouter un aria label qui va préciser que, en fait, il est en train d'aller voir les settings, par exemple.
Yes, donc pour les moins tech, l'aria label, c'est vraiment un bout qui est écrit dans le code, ouais, qui va décrire, du coup, quelle est la fonctionnalité de ce bouton-là.
C'est
et
ça.
Si on reste ultra générique et qu'on n'en met pas, en fait, le screen reader va lire le texte du bouton.
Oui.
Mais si on met juste view sur le bouton, ça va pas
ça
trop
va dire
informer.
View. Voilà, ça va juste dire view. Et du coup, c'est pas suffisant, en fait, pour faire la distinction entre trois boutons view.
Donc ça, vous le prenez en compte aussi. C'est-à-dire que si, typiquement, un bouton qui a pas d'aria label, vous dites, non, il faut en rajouter pour qu'ils soient intégrés dans le design system?
Alors, c'est pas exactement comme ça. Nous, on va prévoir en amont toutes les places pour l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on va prévoir la navigation au clavier sur le composant select. Et donc, alors ça, c'est vraiment du web pattern. Genre, c'est des conventions. Hein, donc voilà, on va prévoir ça. Et puis, si on voit que, par exemple, tous nos boutons, tous nos icon buttons, voilà, en vrai, c'est pas très accessible. Sauf que s'il y a un tooltip à chaque fois qu'on hover dessus et qui nous dit de quoi il s'agit, déjà, ça, c'est plus accessible. Et ensuite, l'aria label, donc, doit être dit. On va pas... S'il n'y a pas d'aria label, globalement, un paramètre, le bouton, il va dire cogwheel, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, il va donner le nom de l'icône qui est dessus. Et en fait, là, on perd le contenu intéressant. Donc ça, nous, on le prévoit dans le design system et on note, il y a un champ, il y a une propriété dans le composant qui dit ça, c'est l'aria label, ça, c'est le contenu du tooltip, et ainsi de suite.
Top, top, top. Et c'est hyper intéressant. C'est un point qui maintenant commence petit à petit à prendre de l'ampleur. C'est quand on parle d'utilisabilité, en fait, effectivement, parce que les personnes, qu'elles soient déficientes visuelles, qu'elles aient des problèmes, des fois, différents problèmes de compréhension aussi. Il y a différents sujets comme ça sur lesquels, pour le coup, un des leaders dans le secteur, c'est tous les produits Apple qui sont connus pour les personnes justement déficientes à différents niveaux parce que ils ont intégré ça très très tôt dans l'usage de leurs produits. Et aujourd'hui, c'est bien de voir du coup des gens comme toi là qui disent oui, on le prend vraiment en compte assez tôt. Et c'est un point hyper hyper intéressant. C'est pour ça que je voulais revenir dessus quand je t'ai entendu parler de ça. Je dis ça c'est un bon point. Je trouve qu'on a fait un tour assez global de qu'est-ce que c'est que faire un design system dans un contexte de rebranding. Mais peut-être qu'il y a un sujet en particulier que t'aimerais accentuer ou un point qu'on n'a pas abordé. Je sais pas.
Je crois qu'on a abordé à peu près tous les sujets et l'accessibilité. Je suis très contente de l'avoir abordé. C'est une partie essentielle du travail du design system et c'est peut-être la partie finalement qui ennuie le plus nos designers et nos développeurs parce qu'en fait il y a des choses qui sont complètement interdites et donc on les frustre un peu.
Très très clair, mais c'est pour évidemment
pour
de bonnes
mieux,
raisons
ouais. pour le meilleur.
Du coup, pour aller vers mes deux questions de fin, donc la première, c'est est-ce que tu as des convictions fortes avec lesquelles tu te retrouves en général en désaccord avec tes pairs?
L'accessibilité, très clairement. L'accessibilité, le problème, c'est que c'est du change management et donc il faut potentiellement le prévoir. Et donc là, il faut convaincre les PM, les product designers, les devs, de prendre aussi un peu de temps pour ça. Ça se développe, l'accessibilité, c'est de plus en plus demandé dans les appels d'offres, sur les marchés publics en France, si on est à l'étranger, c'est extrêmement regardé aux États-Unis par exemple. Et donc je pense que ça va de plus en plus se démocratiser. Je crois vraiment qu'il faut... En fait, il faut se dire que rendre quelque chose accessible, c'est forcément rendre le produit meilleur. Voilà. Ça, c'est un truc, j'y crois dur comme fer, c'est-à-dire que l'accessibilité, c'est la base pour permettre à tout le monde de comprendre, en fait, un produit qui est plus ou moins complexe, et parfois très complexe, et donc finalement, ça ne peut que élever le produit, en fait.
Hyper clair, et là-dessus, bah, comme tu disais, je partage pour le coup moi ton avis, mais c'est vrai que ça peut être frustrant parfois, ça va ralentir certaines choses parfois aussi, donc c'est pour ça que dans certains contextes on peut dire bon, on verra ça plus tard, mais il faut faire attention quand on se dit on verra ça plus tard, pas attendre le trop tard, parce
c'est
que
très long, ouais. c'est du change management, il faut le prévoir, ça se fait comme une fonctionnalité en fait.
Yes,
voilà.
Très, très clair. Et du coup, pour aller vers ma dernière question, c'est un peu les choses qui te nourrissent intellectuellement. L'idée de voir derrière ça, c'est vraiment de comprendre comment toi aussi tu réfléchis et tu t'inspires.
Alors, pour les design systems, vraiment, j'ai des bibles. Je lis des design systems. Mes préférés, ça va être Carbon, notamment pour l'accessibilité. Ils expliquent très bien comment ils rendent accessibles leurs composants. Matériel, évidemment. Le Human Interface d'Apple, évidemment. Adobe Spectrum. Voilà, il y a vraiment beaucoup de design systems. Il y a Atlassian aussi, il y a GitHub, tout ça. Ce que je vais regarder aussi, c'est d'autres produits. GitHub, par exemple, qui est des produits peut-être très techniques, finalement, où ils sont assez innovants. Des librairies React. Finalement, on est très en lien. Le design system, on est très, très en lien avec la tech, en fait, en réalité. Et donc... Il y a pas mal de librairies React pour voir comment les composants sont créés, quelles sont les interactions. Aussi, comment est faite l'accessibilité. Enfin, les trucs vraiment très techniques où finalement, ça peut nous donner des idées. Évidemment, des produits plus cool. Hein. Je veux dire, le visual design de façon générale. Donc, ça peut être Medium, Dribbble... tout ce qui passe, même juste des nouvelles applis où on sait que... Moi, j'ai des potes qui me disent « Ah, il faut que tu regardes cette appli, elle est vraiment bien faite et tout, c'était trop bien. » Et après, j'ai une personne que je suis vraiment... que je trouve vraiment très, très perspicace et pour le design system, c'est Hayley Hugh. Je sais pas comment ça dit. Il y a plein de H.
Je mettrai le lien, de toute façon, pas de souci.
Voilà, et elle, je la trouve extrêmement pertinente sur sa façon de penser le design system. Elle pense le design system comme un outil à grande échelle, pas uniquement pour le produit final, quoi. Potentiellement, ça peut passer dans les illustrations, par exemple, le design system et tout, et comment on s'adresse aux utilisateurs de façon globale, mais aussi comment on s'adresse aux designers et finalement à nos collaborateurs, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça méga intéressant.
Top, ben merci pour tous ces partages, Maud. Et puis si les personnes qui nous écoutent souhaitent te contacter, n'hésitez pas à contacter Maud si vous travaillez sur des design systems, même pour échanger des problématiques communes ou lui faire un retour sur l'échange. Quel est le meilleur endroit pour le faire?
Alors, il y a les Slack dédiés aux design systems. Si jamais vous êtes férus de design system, il y a Design System France. Design System Monde, 08 aussi, très bon Slack. Donc je suis dispo clairement sur ces plateformes-là, et sinon LinkedIn, évidemment.
Top. Eh bien, je mettrai le lien au moins LinkedIn dans les ressources, et après pour ceux qui sont sur les Slack, ils pourront directement te MP. Merci encore pour ton partage, Maud.
Merci.
Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.